les préservatifs de la pensée ou comment la philosophie nous préserve de nos préjugés. Une chronique philosophique présentée par Christophe Galli.
Bonjour à tous. La philosophie peut être un moyen de se détacher du monde. C'est même parfois un reproche qu'on lui fait. Mais l'actualité nous force à contempler des exemples navrants. Celui notamment d'un président états-unien qui use de la force à outrance contre un régime odieux avec son peuple. Personne ne peut soutenir la République islamique et a réprimé dans le sang au mois de janvier les revendications de liberté du peuple iranien. Mais on ne peut pas non plus regarder l'armée la plus puissante du monde bombarder le pays en applaudissant, car non seulement ça semble pas si efficace, mais de plus, ça donne l'autorisation à d'autres puissances, comme la Chine, de régler ses conflits par la force. 2026 n'est donc pas une année de paix. Mais je vais me faire intempestif en faisant l'éloge des révolutionnaires non violents. Certes, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, présent dans l'Ancien Testament, ne permet pas aux pacifistes d'être pris au sérieux. Pourtant, quelques exemples célèbres démontrèrent que la non-violence était une force au moins aussi puissante. Être pacifiste, voilà qui est à contre-courant, car aujourd'hui, les armées sont de plus en plus puissantes. Le principal ministère par son budget n'est plus celui de l'éducation nationale, mais celui des armées avec une augmentation démentielle, qui veut répondre aux menaces plus ou moins lointaines, plus ou moins réelles. Le chef d'état-major a même exceptionnellement été sous le feu des médias en annonçant qu'il fallait s'habituer à l'idée que nos enfants perdront peut-être leur vie sur un champ de bataille. Oui, le temps n'est pas au pacifisme, mais à l'esprit guerrier. L'État utilise, lui, le monopole de la violence légitime pour maintenir l'ordre et protéger la population au sein de son territoire, rendant toute manifestation anti-guerre, armement et anti-violence presque caduque. Ce n'est pas une trend, ni sur les réseaux sociaux, ni dans les médias traditionnels. Souvenez-vous pourtant, la France a connu un autre état d'esprit, dans des circonstances certes un peu différentes, mais sous la menace d'une guerre mondiale entre les États-Unis, déjà eux, et l'URSS. Dans les années 60, l'État français s'élevait face à la menace soviétique et voulait une armée forte pour y répondre. Ainsi, sur le Larzac, en 1969, le gouvernement décida d'agrandir le camp militaire en expulsant une centaine de fermiers. Cela donna lieu à un mouvement de résistance puissant, rigolo, pacifique, qui permit alors au Larzac de renaître en partie, attirant des milliers de personnes de diverses origines, faisant rencontrer de braves paysans plutôt gaullistes et des chevelus gauchistes amateurs de l'amour libre. Avez-vous vu le documentaire « Tous au Larzac » du réalisateur Christian Rouault, réalisé en 2011 ? Non ? N'hésitez pas, précipitez-vous pour le voir, car il vous donnera un chouette exemple de lutte non armée, utilisant l'humour, la persévérance et l'intelligence face aux lourdeurs de l'administration.
Le jour où des paysans du Larzac ont campé sous la tour Eiffel. Pendant 10 ans, de 1971 à 1981, une centaine de paysans du Larzac, plateau du Massif Central, se lient solidairement. À l'origine de leur mobilisation, le projet d'extension d'un camp militaire les menaçant d'expropriation. C'est la lutte du Larzac.
Le projet d'extension porte sur 14 000 hectares, au nord, à l'est et au sud du camp actuel. Partisans et opposants de l'extension s'affrontent, parfois avec violence. Insultes, intimidations, menaces de mort même, provoquent la terreur et font taire les tenants de l'agrandissement du camp.
Plusieurs actions rythment cette décennie de mobilisation paysanne, localement, mais aussi à Paris, notamment aux abords de la Tour Eiffel. La première, le 25 octobre 1972, 60 brebis viennent paître sur les pelouses du Champ de Mars.
Portant peinte sur leur toison l'inscription « Sauvons le Larzac », elles ont brouté 2 heures le gazon du Champ de Mars au pied de la Tour Eiffel, avant d'être conduites aux abattoirs de la Villette. Des policiers s'étaient rendus sur les lieux mais ne sont pas intervenus.
Lorsque les éleveurs du Larzac amenèrent leurs moutons sur le Champ de Mars, à Paris, juste en dessous de la Tour Eiffel pour manifester, les policiers, eux, qui avaient l'habitude d'arrêter des individus et canaliser des foules, étaient incapables de maîtriser les ovins. Le comique comme arme ultime. Bon, certes, les paysans auraient pu perdre, si François Mitterrand n'avait pas été élu en 1981, puisque la procédure d'expulsion avait été prononcée. Peut-être. Mais ce qui est certain, c'est que s'ils avaient fait le choix de la violence face à l'État, ils auraient nécessairement perdu. Cet épisode de l'histoire du militantisme pacifiste français me donne l'occasion de vous proposer deux références à lire pour réfléchir sur la dichotomie entre puissance armée et pacifisme. D'abord, la définition que le sociologue Max Weber donnait de l'État en 1919, dans sa conférence « Le savant et le politique ». Et puis, un livre plus contemporain, « Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans armes » aux éditions Payot 2015 de Sreja Popovic, activiste serbe qui a fondé le mouvement Optor. 100 ans séparés les deux ouvrages et ils donnent une vision diamétralement différente de l'État. Commençons par le plus classique des deux. Max Weber y théorise la question politique à travers quelques phrases qui peuvent faire frémir au premier abord. Je lis. Depuis toujours, les groupements politiques les plus divers ont tous tenu la violence physique pour le seul moyen normal du pouvoir. La messe est dite. Il est impossible que les hommes vivent en paix et puissent trouver des solutions constructives. Le salut ne peut venir que d'une force au-dessus des individus. Max Weber précise. Il faut concevoir l'État contemporain comme une communauté humaine qui, dans les limites d'un territoire déterminé, la notion de territoire étant une de ses caractéristiques, revendique avec succès, pour son propre compte, le monopole de la violence physique légitime. Cela justifie l'action de la police dans nos sociétés qui fait ainsi disparaître la violence entre les individus. C'est la meilleure solution pour éviter une anarchie sanglante. Construite sur le rapport de force et la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Mais que faire lorsque l'État abuse de son pouvoir et oppresse ses citoyens? Faut-il, au nom de la sécurité, ne rien dire?
Oh ouais, ouais, d'accord, moi aussi je peux faire...
Bon, attendez, laissez-moi passer, s'il vous
plaît. Recule, je te dis.
Monsieur, vous n'êtes pas responsable des ordres que l'on vous donne pour entraver la libre circulation des individus dans un pays démocratique. C'est pourquoi je vous prie de ne pas vous sentir personnellement visé par mon geste, que nous allons considérer ensemble comme un simple symbole de protestation contre la répression, dont vous êtes un suppôt involontaire, et j'en suis persuadé, extrêmement sceptique.
Mais il est fou, c'est con ! Attends, vous n'avez pas trompé un gosse, non ?
Prévenez la Ligue des droits de l'homme !
Avance ! Ah, le Seigne !
Mais non, tu sais pas, imbécile !
Je porte plein de Seigne ! Ça va vous coûter très cher, les mecs ! Très très cher ! Ça va pas pleurer, hein !
C'est la lune !
Allez,
allez. Otpor, ensemble d'activistes pacifistes serbes, fut l'acteur principal de la chute de Milosevic en octobre 2000. Petit rappel pour les plus jeunes. Milosevic, président de la Serbie, déclencha dès 1990 des guerres nationalistes doublées d'un nettoyage ethnique dans l'ex-Yougoslavie à partir de 1993 qui frappa le monde entier d'horreur. En 1998, Popovic, jeune homme de 25 ans, décida avec quelques amis à Belgrade d'organiser la résistance contre leur président devenu un dictateur. Mais écœurés par la violence et la barbarie de leur gouvernement, ils choisirent de ne faire que des manifestations non violentes. Otpor devint le symbole de la révolution pacifiste. Et aujourd'hui encore, il propose des formations pour les citoyens du monde entier à travers son organisation Canvas. Non pas la plateforme numérique devenue célèbre, mais l'acronyme anglais pour Centre d'application des actions et stratégies non violentes. Peut-on croire qu'il est possible de faire tomber les dictateurs uniquement grâce à la non-violence? N'est-ce pas naïf? Le Mahatma Gandhi et Nelson Mandela ne furent-ils pas de simples exceptions à la règle qui dicte que la terreur et la violence sont les mamelles du pouvoir politique? À lire ce livre, non. Il est possible de faire autrement, de manière systématique, mais à quelques conditions.
Nous ne cherchons pas à attiser la peur ou la haine entre qui que ce soit, mais nous vous demandons, à vous, hindous, musulmans et sikhs, votre appui. Illuminons notre vie et l'esprit de tous les Britanniques qui sont ici par le fier défi que nous jetons à l'injustice qu'ils ont créée. Nous allons donc brûler les permis des membres et adhérents du comité. Nous vous demandons de déposer vos permis dans le feu.
Espèce de sale collègue !
Avec conviction !
Tu joues à ça ? Avec moi ? Sale métèque !
Premier conseil, être pacifiste ne veut pas dire être naïf et fleur bleue. Pour parvenir à faire chuter un dictateur ou à faire plier un État, il faut appliquer les règles de la conquête militaire, mais sans les armes. C'est-à-dire qu'il faut avoir une stratégie et une tactique dignes des plus grands stratèges pour faire la révolution. La stratégie est le but que l'on se fixe. La tactique, c'est l'ensemble des moyens à utiliser pour faire aboutir la stratégie. Les Égyptiens, formés par le canvas, ont développé une excellente tactique pour se débarrasser de leur dictateur, Moubarak, en 2011. Mais ils n'ont pas réfléchi sur la stratégie à suivre. Du coup, la révolution déboucha sur la prise du pouvoir par les islamistes, puis les militaires. Et la démocratie égyptienne n'est plus qu'un doux souvenir. La résistance des étudiants chinois sur la place Tiananmen en 1989 fut aussi un échec, car ils ne surent pas quoi faire de leur première réussite. Et depuis, le gouvernement chinois a presque totalement étouffé la résistance. Deuxième conseil, n'utilisez pas ce qui fait la force de l'État oppresseur, mais au contraire, sa faiblesse. Par exemple, la plupart du temps, les forces de police ne savent pas réagir face à l'humour. Eh bien, utilisez ce créneau sans avoir peur du ridicule. Ce dernier frappera au cœur de sa cible. Souvenez-vous des moutons sur les champs de Mars, et vous comprendrez que c'est une véritable arme. Troisième conseil, voyez grand, mais commencez petit. Ayez de grandes idées sur la liberté, mais ne croyez pas qu'elles suffisent pour pousser les gens à vous suivre. Tâchez plutôt de défendre ce qui les intéresse au quotidien et que vous pouvez changer. Ainsi, Harvey Milk devint l'un des premiers hommes politiques américains homosexuels à être élu. Il permit à la cause gay de progresser, mais ses premiers succès à San Francisco, il les doit à sa lutte contre les crottes de chiens, problème sur lequel il centra sa première campagne en 1977. Moins glorieux, mais plus efficace pour être pris au sérieux. Cut the shit, diriez-vous. Certes, mais... Pourtant, cela fonctionne, même si Harvey Milk fut assassiné en 1978. Il eut le temps de parrainer un projet de loi interdisant la discrimination dans l'attribution des logements publics et l'emploi sur la base de l'orientation sexuelle. Et en 2009, il reçut à titre posthume la médaille de la liberté.
Je m'appelle Harvey Milk et je suis là pour vous mobiliser.
Si on accorde les droits civils aux homosexuels, alors on les accordera aussi aux prostituées ou encore aux voleurs ou à n'importe qui.
40 ans et je n'ai encore rien fait.
Je ne me laisserai pas chasser de San Francisco par des gens qui sont des déviants sociaux irrécupérables.
Il faut qu'un des nôtres soit élu. On peut faire la révolution ici.
Je n'agis pas pour perdre.
La voilà, notre nouvelle directrice de campagne.
Vous avez peur des filles.
Tu seras le premier homme ouvertement homosexuel élu à une fonction importante.
Tu fais partie de la machine maintenant.
Voilà donc deux visions opposées. L'État fort qui assure, grâce à la violence, la paix et la sécurité, et la résistance pacifique face à la répression policière et des activistes qui font progresser leurs idées grâce à une pression continue mais sans violence. Espérons que la France ne deviendra pas cet État toujours plus autoritaire, illibéral que nous promettent certains candidats aux élections, au nom du sentiment d'insécurité. Et que le monopole de la violence légitime ne se transformera pas en raison systématique pour la surveillance et la répression généralisée. Que l'action politique dans nos rues ne se transforme jamais, comme à Minneapolis, en un décompte mortel.
Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu. Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi. Avec un soupçon de réserve toutefois, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin. Car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure, pour des idées, n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente.
Cette chronique sera rediffusée dimanche à 17h et reste disponible sur le site de Radio Pays d'Hérault sous forme de podcast. Mais aussi, et c'est tout nouveau, sur l'application RPH FM que vous pouvez télécharger directement sur vos téléphones. N'hésitez pas à réagir et à m'envoyer des questions ou des commentaires pour prolonger ce petit moment de philosophie. Je remercie RPH Sud et Radio Pays d'Hérault, et plus particulièrement Solène à la technique et au montage. Et je laisse le dernier mot à Jacques Higelin.